Donc, je vais redresser, nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé concernant le rôle que chaque nation a dans ce monde. Chaque nation peut dire « Asher Bachar Banu Nikola Ami »« Venatan Lanu Et Torato » C'est-à-dire que chaque nation a sa Torah. Torah ne veut pas dire un texte, veut dire une structure qui est gravée dans l'essence même de la nation en question. Pas seulement au niveau des nations, mais même au niveau des animaux, au niveau des végétaux, au niveau du minéral, chaque élément dans ce monde, dans toute la création, tout entière, peut dire qu'il a été choisi pour un rôle, pour remplir un rôle. Donc c'est sa Torah. Donc la Torah de l'oiseau est inscrite dans sa forme d'être oiseau. La Torah des hommes est une Torah qui est inscrite dans leur manière d'être homme. De la même manière, Israël a reçu sa Torah, une Torah bien spéciale, et cette fois-ci, c'est une Torah qui est à un niveau différent, bien entendu, puisque chaque Torah est différente. Et notre Torah, la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est une Torah qui est inscrite donc dans notre nature et dont le but est de trouver le point commun entre tous les éléments de ce monde. C'est-à-dire nous sommes la Torah du Meshutaf, qu'on appelle en hébreu. Notre Torah est la Torah, en fait, qui parle à tout. Sortez un petit peu du contexte Torah que vous avez l'habitude de comprendre. En fait, nous avons un rôle qui est gravé donc dans notre essence, Israël, qui parle de tout, qui parle à tout. C'est-à-dire que pour parler à tout, je veux dire donc aux nations du monde, mais je veux dire aussi aux animaux, je veux dire aussi aux végétaux et aux minéraux, et il faut que ce langage soit un langage très subtil. Il ne peut pas être un langage qui s'adresse à un élément. Ne prenons pas compte du reste. Alors, c'est ça? Tous les éléments en même temps. C'est-à-dire que c'est une Torah qui parle à une vision globale de la vie. Donc c'est très très riche, c'est très complexe. Vous êtes en train de comprendre de quoi nous sommes en train de parler. C'est-à-dire que c'est comme une formule qu'un scientifique trouve. Si cette formule ne marche pas dans tous les éléments, c'est que cette formule est faible. Donc de la même manière que chaque élément dans ce monde a reçu sa Torah, et bien entendu je ne peux pas parler ici du livre de la Torah, je parle de la Torah. Quelle est la différence entre le livre? Parce que malheureusement quand on dit Torah, tout le monde voit un parchemin, on est d'accord? Je ne parle pas de cela. C'est une grande différence. Je vous pose la question simple, sur quelle matière est écrite la Torah? Vous retombez dans le piège. Exactement, dans la vie. La Torah n'est pas inscrite dans aucune matière, sinon ça ne veut rien dire, sinon elle est étrangère à moi. La Torah est inscrite dans ma vie. et le livre de la Torah, ou la pierre, ou ce que vous voulez, après, c'est juste un recopiage. Mais l'essence de la Torah n'est pas un texte qui est posé sur un parchemin, sur un papier, vous comprenez bien. Sinon, c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous avait donné une Torah qui est étrangère à nous. C'est pas ça. Donc la Torah, et il faut bien comprendre, et c'est bien qu'on répète à chaque fois, la Torah est inscrite dans l'essence même de la chose. Quelle est la Torah du chat, par exemple? Est-ce que le chat a reçu une Torah? Quelle est la Torah du chat? Mais c'est tout simplement sa manière d'être. C'est-à-dire de se lécher, de se coiffer. Ça, c'est la Torah du chat. Donc elle est inscrite dans sa vie, dans sa structure vivante. La Torah de l'oiseau, c'est exactement la même chose. C'est de siffler, c'est de voler, et de chercher sa nourriture comme il sait le faire. La Torah d'une plante, c'est la même chose, dans un domaine qui est le domaine du végétal. Donc la plante va chercher à se nourrir, elle va chercher du chlorophylle, elle va chercher de la lumière, elle va chercher de la nourriture, de l'eau, et elle va fournir de l'oxygène, et ainsi de suite. Ça, c'est la Torah de la plante. Donc chaque plante, si elle pouvait parler, et elle parle, mais dans un langage que nous n'entendons pas, mais nous devrions entendre, comme c'était le cas de gens qui étaient très érudits dans la Torah. Le roi Salomon, après lui, le Hari Akadosh, des êtres de lumière, des êtres très élevés, entendaient le langage des arbres. Entendez le langage du minéral. Entendez le langage des animaux. C'est le roi Salomon, il y avait des lions à côté de lui. Un lion peut comprendre ce qu'un homme lui dit. Je ne parle pas d'un lion dressé. C'est beaucoup plus profond. Le roi Salomon savait parler à l'identité du lion, c'est-à-dire à sa Torah. Le Hari Akadosh savait parler au langage des arbres, c'est-à-dire au langage du végétal. Comment est-ce possible que lui arrive et nous non? Ben, tout simplement parce que nous n'avons pas conscience que c'est en nous, que nous pouvons arriver à cela, que nous devons arriver à cela et qu'un jour nous arriverons à cela. Ça, c'est la Torah qu'Israël a reçue. C'est-à-dire que au mont Sinaï, on a reçu une Torah qui, malheureusement, quand elle est incomprise, on a l'impression qu'on a reçu des parchemins ou des tables. Ce n'est pas ce qu'on a reçu. On a reçu en fait le code, la clé, de quoi? De la vie, tout simplement, de tout ce qui est vivant. Donc si on avait intégré cette Torah, eh bien on aurait dû développer ce degré-là pour gérer le monde tout entier, à tous ses niveaux. Malheureusement, quand on s'éloigne de cette compréhension et qu'on a l'impression, comme quand on pose la question à un juif de base, sur quelle matière est inscrite la Torah, il commence à vous dire sur de la pierre, sur du parchemin. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris en fait encore ce de quoi on parle. Et là, nous sommes là pour corriger ça. Nous ne parlons pas d'un texte, nous ne parlons pas de lettres, nous parlons de vie qui s'habille dans des lettres pour nous apporter cette lumière. Donc au-delà du texte, je parle donc de l'essence. Et si j'arrive à comprendre quel genre de Torah le peuple d'Israël a reçu, je commence à comprendre que la Torah que nous avons reçue est une Torah du commun. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah du commun? Pas une Torah qui est liée seulement à Israël, mais une Torah qui doit me permettre de parler à tous les niveaux de l'existence. C'est bien. à tous les niveaux de l'existence. Pourquoi faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de parler à une pierre? Mais tout simplement parce que si la pierre n'est pas à son véritable niveau, si la pierre s'est éloignée de ce qu'elle devait être au départ, elle a un problème. Un exemple. Quel est le niveau de la pierre réelle? Qu'est-ce que la pierre devrait être? C'est-à-dire, donne-moi un exemple précis, clair. Il y a fait, non. Le véritable rôle de la pierre, c'est d'être le Beth Amikdash. C'est-à-dire un temple, c'est-à-dire un cli, un ustensile pour la réception de la lumière de l'infini. Tant que la pierre n'est pas arrivée à ce niveau-là, alors c'est une pierre. C'est pas son rôle. Moralité. Si je regarde maintenant la pierre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore à son véritable niveau. Le monde minéral, la pierre, attend d'être reconnue pour ce qu'elle est. C'est pas l'infini. Non. C'est vrai, mais ce n'est pas lui l'infini. Il est un des dévoilements de l'infini, à son niveau. Oui, oui, on arrive à l'infiniment petit. Et c'est encore de l'infini. Tout à fait. Tout à fait. En fait, on est toujours l'infini révélé à des milliards de niveaux différents. C'est tout. C'est toujours la même lumière. C'est toujours la lumière de l'infini qui se révèle un coup chez toi, un coup chez un chat, et un coup dans une plante, et un coup dans une pierre. Et il faut savoir qu'en réalité, les molécules qui nous forment sont les mêmes molécules que le caillou, seulement dans une combinaison différente qui va donner que toi, tu vas être une femme et que le caillou va rester un caillou. Ça veut dire que c'est toujours le même infini qui se révèle à différents niveaux. Donc je dois savoir, moi, en tant qu'homme, quel est le niveau de l'infini que je peux dévoiler. Et tant que je n'ai pas dévoilé ce niveau, que je suis en deçà de ce niveau, eh bien je faute à ce niveau. Donc je suis un fauteur. Non, pas forcément. On ne termine jamais sa mission, parce que quand tu as terminé ta mission, entre guillemets, tu dois terminer la mission de tous ceux qui sont du même, de la même racine d'âme que toi. Donc tu n'as jamais terminé vraiment. C'est pas aussi simple que ça. D'accord? Ok. Je veux bien que vous compreniez ça. Donc Torah, ça veut dire quoi? Comment vous pouvez traduire le mot Torah? Exactement, c'est la vie. D'ailleurs, on l'appelle Et Chaim. Et Chaim. Qu'est-ce que c'est Et? Non, c'est pas un arbre. Vous avez déjà vu une Torah en forme d'arbre? Exactement. C'est tout simplement le masculin de conseil. Etsa, c'est un conseil en hébreu. Et, c'est un conseil au masculin. Donc, Ephraïm n'est pas un arbre de vie, mais un conseil de vie. Donc, la Torah est un conseil de vie. Ephraïm, ça dit. C'est bon? Donc ceux qui ne comprennent pas cela, ceux qui ne comprennent pas cela prennent la Torah pour un livre. Et voilà comment nous sommes tombés dans la religion. Quand le judaïsme est devenu une religion, malheureusement, on a perdu l'essentiel. On n'a rien compris. Donc il faut quitter la religion pour redevenir Israël. Je n'ai pas dit quitter la Torah et les mitzvot. Hein. J'ai dit quitter la religion, qui n'a aucun rapport avec ce que nous sommes. Et ne répétez jamais ce genre de bêtises que la Torah est un mode de vie. La Torah n'est pas un mode de vie, la Torah c'est la vie. D'accord ? Et selon ce que nous sommes, elle se manifeste de manière différente. La Torah de la fourmi n'est pas la même Torah que la mienne. Parce que la fourmi a une manière d'être, une structure de vie qui est à l'intérieur même de son être, de fourmi, et elle travaille. Aujourd'hui, les animaux sont plus proches que nous de leur véritable identité. C'est-à-dire que l'identité de la fourmi, généralement, n'est pas endommagée, sauf à cause de la faute du premier homme où tout est descendu d'un niveau, même les fourmis, même les animaux. Mais ça veut dire qu'ils sont en fait obéissants à leur propre... Non, ils ne sont pas au maximum, ils sont au maximum de ce qu'ils sont après la faute. Je veux dire que quand on va corriger, nous, Israël, la faute du premier homme, même les animaux vont monter du niveau. D'accord ? Mais pour l'instant, ils sont au maximum de leur être. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'activer un chat quand il naît. Il vit comme un chat au bout de 3 heures. Alors qu'un bébé, pour qu'il devienne un homme, il lui faut 50 ans. Et encore. D'accord ? C'est ça notre problème. Et même quand on a 50 ans, on peut vivre comme des monstres, comme ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous. Ce sont loin d'être des hommes, ce sont des monstres déguisés en humains. Donc loin de réaliser leur degré d'homme, quel que le Créateur voulait que ce soit. Et nous sommes, Israël, là pour parler à tous ces niveaux, à ces milliards de niveaux, en révélant la Torah du commun. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes les porteurs, les détenteurs de la Torah du commun. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que nous savons le langage qui est commun à tous les niveaux de l'existence. Alors, je vous pose la question. Cette Torah, si elle est en fait la Torah du commun, ça veut dire qu'on a reçu, nous, la formule de quoi ? De tout la vie. Nous sommes les détenteurs de la formule de la vie. Ok ? Est-ce que vous connaissez cette formule ? Oui ou non ? Il faut la connaître. Vous connaissez tous E égale MC carré. Pourquoi vous ne connaissez pas la formule de Dieu alors ? La formule de Dieu est dite dans la Torah. Il le dit lui-même. Il a dit Omer, Elohim, Yehi, Or, que la lumière soit. C'est ça la formule de Dieu. Je traduis. La Torah que le Mashiach va venir dévoiler, c'est Yehi, Or, que la lumière soit. C'est-à-dire, il va mettre la lumière dans quoi ? Dans tous les éléments de ce monde. Il va montrer en réalité le véritable niveau de chaque degré. Donc il va révéler la Torah du chat. Il va nous révéler la Torah de la plante. Il va nous révéler la Torah de la pierre. Et chacun va revenir à son état initial tel que le Créateur l'a voulu. Tout simplement parce que c'est pour ça qu'Israël a été choisi. Qu'est-ce que ça veut dire Asher Bachar Banu Mikol Amim? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a choisi de parmi les nations? Je viens de vous dire que chaque nation a été choisie pour être ce qu'elle est. Alors quelle est notre différence? C'est que nous sommes Mikol Amim. C'est-à-dire Mikol Amim. Nous sommes un peu de toutes les nations. C'est ça le secret. Donc nous avons en nous, en fait, une trace, un extrait de toutes les nations. C'est du chinois ce que je suis en train de vous raconter ou vous comprenez? Ça veut dire que les derniers Français du monde, ça va être qui? Vous. Celles qui sont montées en Israël. La France va disparaître. Ce n'est pas une prophétie que je suis en train de vous faire, apocalyptique. C'est tout simplement parce que la France va être avalée par d'autres identités, comme elle est en train de le subir maintenant. Donc la dernière trace des derniers Français de l'histoire humaine, ça va être les Juifs français qui sont montés en Israël. Quand vous allez parler français ici, en Israël, vous allez être les derniers qui parlent français. Le langage français va être c'est en train de disparaître d'ailleurs. Ça va commencer petit à petit à devenir où est-ce que je suis avec ma mère, ça va devenir ça. Après, ça va devenir des fautes dans le fait d'écrire parce que pour écrire deux mains, on va écrire deux avec une main. Et ainsi de suite. Tout doucement, les gens. Oui, mais tout doucement, tout va être oublié. C'est-à-dire les gens qui parlent un véritable français vont être ici. Ceux qui parlent un véritable espagnol vont être ici. La dernière trace du ladino. Ça va être les Juifs sont montés d'Espagne. Le ladino est déjà inconnu en Espagne. Les derniers Russes, les derniers Américains, les derniers des Mohicans, tout ce que vous voulez, ça va être en réalité un extrait. Donc, qui nous sommes un rassemblement d'extraits de toutes les nations et de toutes les valeurs de l'humanité. Tout va se retrouver où? En Israël. D'accord? Ça vous rappelle quoi? L'arche de Noé. Le monde va être complètement anéanti et où sont restés les extraits de toute la vie? Dans l'arche. Donc la terre d'Israël, c'est l'arche de Noé. C'est maintenant. On est dans l'époque du Messie. Il faut qu'on se réveille. C'est maintenant l'époque messianique. Tous ceux qui ont été appelés rentrent dans l'arche. Vous êtes ceux qui ont entendu le son pour revenir dans l'arche de Noé. Le Maboul est en train de commencer partout, et seuls seront sauvés ceux qui sont dans l'arche. C'est tout. Il faut bien le comprendre, ça. Vous faites partie d'êtres que le Créateur du monde a choisi pour continuer l'humanité de demain. Vous comprenez ça? Alors quand vous le voyez dans des films de science-fiction, s'il en a choisi deux ou trois personnes, vous dites, waouh, les pauvres, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est vous! C'est nous. Nous avons été choisis. Ken. Oui, toi ici. Ben, ça veut dire que s'ils ne comprennent pas assez tôt qu'il faut vite rentrer dans l'arche, malheureusement, il y aura une... Je ne veux pas parler Chas v'Shalom pour dire des choses négatives, mais il y a un problème qui va se passer parce qu'il y aura une disparition, d'ailleurs, qui se fait déjà. Parce que l'assimilation a déjà pris de notre peuple à peu près 8 millions de personnes depuis la Shoah, sans compter la Shoah, seulement en assimilation. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont disparu dans la nature, c'est fini. Vous avez tous des cousins ou des cousines qui ne sont plus juifs ou que leurs enfants ne sont plus juifs. Mais d'accord. Si, c'est en train de partir. Donc les derniers qui vont garder cette mémoire, ça va être ceux qui sont entrés dans l'arche. Donc le Zohar nous dit que la terre d'Israël, c'est l'arche de Noé. D'accord? Il faut bien comprendre que nous sommes en train de terminer l'histoire humaine. C'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas, ils se disent, tiens, celui-là, il est sioniste, il veut qu'on monte en Israël. Ça, c'est au ras des pâquerettes. Il faut bien comprendre que nous sommes en train de parler d'un sujet qui est énorme. Je voyage déjà parce qu'il y a un début de semaine en France pour aller faire des conférences sur ça. C'est-à-dire, c'est comme des derniers appels pour entrer dans l'art, vite. Et ceux qui ne comprennent pas, qui s'endorment parce que chacun avec ses petits soucis et son petit machin, c'est bien beau, c'est très important, je ne néglige pas. Il y a un problème très grave, qui est énorme par rapport à ton petit truc. Et les gens n'ouvrent pas les yeux. Et ils ont l'impression que parce qu'ils sont entre guillemets dans la Torah, alors ça les protège. Pas forcément. Parce que être dans la Torah, mais ne pas être dans la Torah qui correspond à un lieu de la Torah. Parce que la terre d'Israël, elle a une structure qui permet à la Torah de vivre. C'est vrai. Et alors? C'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Et alors? Ça change quoi? Ça change quoi? C'est pas un argument. C'est comme si tu disais, je veux pas avoir d'enfants parce que je sais qu'ils vont être malades, qu'ils vont avoir des trucs. C'est rien sûr. Et alors? Ils vont tout passer, ne t'inquiète pas, même quand tu auras des enfants. Alors? Bien fait. Bien fait, tout à fait. Alors à cela a répondu le Rav Kook à un homme qui est venu lui dire ce genre de choses. Ça ressemble à deux femmes allongées dans un hôpital, côte à côte, dans une chambre d'hôpital. Et les deux femmes sont en train de crier, d'hurler, de douleur. Il dit le Rav Kook, il y a une seule différence. L'une d'entre elles est en train d'accoucher. Et l'autre est agonisante. Vous avez compris la différence? C'est tout. Alors une, elle a des douleurs, mais pour donner la vie. Alors c'est une douleur, alors tu lui dis, bon arrête, on arrête tout, il n'y a pas de douleur, donc il n'y a pas d'accouchement. Non, il y a une douleur, mais c'est une douleur qui va vers la vie. Alors que l'autre, ces douleurs, ça va vers la mort. Et ça, c'est pas des prévisions, c'est une réalité, je suis en train de vous le dire, de vous le montrer, parce que plus d'un tiers de notre peuple a disparu en assimilation, comme ça a évaporé dans la nature. Sans compter ceux qui sont morts dans la Shoah. Alors de quoi on parle? Alors il n'y a aucune commune mesure, aucune comparaison entre les choses. Il faut bien comprendre que vous allez prendre votre décision à la fin de cette année de rester ou de partir. C'est pas un petit truc, un petit choix personnel de la petite demoiselle que tu es ici. C'est énorme, c'est pour toi, pour tes enfants, pour tes arrière-petits-enfants. Avant-hier, j'ai été consolé. La maman d'un ami qui nous a fait monter en Israël, qui est décédé, 103 ans, 101 ans, pardon. J'étais dans la Shoah. Et quand j'étais là-bas, mon ami, je lui ai dit, tu as une photo de ta maman? Il m'a dit, non, j'ai mieux, j'ai sa carte d'identité. Et il m'a montré une photo. Dans cette photo, il y avait, je n'exagère pas, hein, une centaine d'enfants et de petits-enfants. Et il avait marqué en bas, toi le nazi qui a voulu me tuer, je t'ai gagné, je t'ai battu. J'ai 100 enfants et petits-enfants en Israël. Tous des guerriers, des soldats, des petits-enfants au GAN, et la petite vieille au milieu, comme ça. C'est pas extraordinaire, ça? Ça, c'est une carte d'identité. C'est de ça que nous parlons, Rabotai. C'est pas moins que ça. Donc, vos petites décisions, ouais, monsieur, ça, je vais partir, ça. C'est loin de tout ça. Je suis en train de vous parler ici de vie, de la nation, de ce que nous devons faire ici. C'est pour ça que vous êtes là, vous avez entendu ce son qui vous appelle. Vos parents vous ont permis de partir parce qu'intuitivement ils savent que c'est là que vous devez être. Même si c'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Mais c'est nos difficultés. Ce n'est pas les difficultés de quelqu'un d'autre. Pour mes difficultés, je dois travailler, bien entendu. Personne ne t'a dit que ça va être facile. Comme tout. Quand je veux être un grand musicien, je dois m'entraîner, je me casse les doigts. et je pleure. Et quand je veux être un grand artiste, eh bien je pleure parce que ça marche pas tout le temps, les toiles ne sortent pas comme je veux, et les sculptures non plus. Mais ça ne veut pas dire que je m'arrête. Je me bats, je continue, je construis quelque chose, pas seulement pour moi, mais pour celui qui m'a donné la vie de le faire. Ça ressemble à un cours de fin d'année, hein. Mais en fait, c'est la même chose. Moi, je n'ai qu'un cours. C'est celui-là. Vous pouvez m'entendre n'importe où, ce sera toujours le même cours. Mais sous des angles différents. Et madame vient à mes cours le dimanche soir, c'est la même notion, mais différent. Je ne répète pas les mêmes choses. D'ailleurs, vous êtes invité aussi à ces cours, à d'autres cours. Vous pouvez un petit peu sortir de votre petite nuit. Okay. De voir du monde, de voir des garçons, de voir des adolescents, vous devez construire votre vie. J'ai touché un point sensible. Qu'est-ce qui se passe là? Okay. Je ne sais pas comment ça marche ici avec Rivka et tout ça, mais il va falloir bien le faire, non, un jour. Vous êtes dans l'art, mais dans l'art, ça va, quoi. D'accord? Alors, je veux que vous compreniez bien quel est le rôle d'Israël dans ce monde. Alors, quand un homme d'Israël parle, quand la Torah parle à travers un homme, quand je vais enseigner, je vais donner un cours de Torah, mais je dois savoir, en fait, que je parle de ce dénominateur commun qui existe entre tous les éléments de ce monde. Donc, je dois être capable de parler un langage qui s'adresse et à toi, un sauveur. Alors je vous pose une question très simple. Comment est-ce que je peux trouver un langage qui parle et à toi, et à cette table, et à madame, et à monsieur, et au chat qui est dans la rue, et à l'oiseau, et à la plante qui est en bas, et à la pierre qui est ici? C'est quoi ce langage? Vous connaissez un langage pareil? Alors, pour vous répondre, je vois que vous êtes comme des poissons. Prenez l'exemple des feuilles que vous avez devant vous. Est-ce que vous avez un texte? Ok. On va dire que ce texte, c'est un ensemble de textes. On est d'accord. Qui forment des phrases, qui ont un sens. Mais, toi, par exemple, tu es une des lettres. On est d'accord? Chacun de nous est une lettre. Toi, tu es une autre lettre. Et elle, une troisième. Et elle, une quatrième. Et votre groupe ici est un mot. Par rapport au groupe d'à côté qui est un autre mot. Jusque-là, ça va? Ok. Quel est le lien entre le Samer et le Gimel qui est ici? Tu vois bien qu'elles ne se touchent pas, ces lettres. D'ailleurs, si dans la Torah, deux lettres se touchent, le livre est Fatoul, on ne peut pas lire dessus. Donc, quel est le lien entre le Samer et le Gimel?
Ils appartiennent au même mot.
D'où tu sais? Ça appartient à un mot gamal, un chameau, et ça appartient à un pouce, un cheval. Là, ils appartiennent au même mot parce que c'est moi qui les ai placés. Mais qu'est-ce qui fait le lien entre eux? Merci beaucoup. C'est pas la lettre, c'est l'espace blanc qui est entre ces deux lettres. Et cet espace blanc, il est seulement entre les deux lettres? Il est aussi autour, mais même en dessous. C'est-à-dire sur quoi j'ai posé ces lettres? Sur le blanc qui était avant. Donc il y avait un langage qui s'appelait le blanc, que personne n'arrivait à comprendre. On est d'accord? Cette feuille, quand elle est sortie de l'usine pour fabriquer du papier, elle est arrivée chez moi blanche. Est-ce que le texte que j'ai imprimé dessus était déjà en potentiel sur cette feuille blanche? Oui. Donc cette feuille attendait depuis sa création d'être un texte de Torah. Et là, elle jubile parce qu'elle se dit chouette par rapport à mes copines qui ont terminé dans un shawarma. Moi, j'ai terminé en tête de Torah au Machon Ora. Donc, si j'avais la possibilité d'écouter la feuille maintenant, elle est en train de danser. Elle jubile parce qu'elle a un texte de Torah sur elle, on peut même plus la jeter. Il faut la mettre dans une grisa. On a un respect pour ce morceau de papier maintenant. Extraordinaire. Donc elle fait la belle. Maintenant, ce blanc-là, pourquoi je ne l'ai pas laissé blanc? Je ne sais pas, moi. Peut-être que le but, c'est de rester blanc, puisque dans le blanc, il y avait déjà tout. Donc, pourquoi ne pas la laisser blanc? Ça veut dire que nous sommes incapables de lire du blanc sur du blanc. C'est tout. Tu ne peux pas lire le blanc. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. On ne sait pas lire le blanc. Alors, qu'est-ce qu'on lit, nous? Du noir sur du blanc. Mais vous savez qu'au niveau scientifique, votre cerveau, lui, qu'est-ce qu'il dit? Le blanc. Il ne dit pas le noir. Et en plus de ça, tout ce que vous le voyez à l'envers. Vous savez ça? Et votre cerveau inverse l'écriture et vous le voyez à l'endroit. Je commence à vous faire peur, là. C'est-à-dire, vous croyez que les choses sont faciles, anodines, elles sont là? Non! Vous voyez à l'envers. Votre cerveau lit le blanc alors que vous avez l'impression de lire le noir. Parce que vous vous dites, je suis incapable, moi, de lire du blanc. Oui ou non? C'est comme si je vous demande maintenant, dis-moi ce que je suis en train de te dire et de noter. Je ne peux pas, c'est difficile. Alors que normalement, tu aurais dû. Tu as la capacité de le faire. Parce que tu es, dans ta source, dans ta véritable source, une prophétesse. Tu aurais dû voir et entendre les silences du Rav. Alors, les élèves normaux de base, qu'est-ce qu'ils entendent? La parole du Rav. Mais les bons élèves, le vrai élève, qu'est-ce qu'il entend? Les silences du Rav. C'est un autre niveau. Même quand le Rav se tait, il continue d'entendre. C'est d'ailleurs pour ça que les vieux raves, les sages, mettent beaucoup de blanc entre les mots qu'ils disent. Plus on est jeune, plus on parle vite. Même les enfants, je ne comprends même pas. C'est-à-dire, regarde la radar. Tu peux répéter. Même en hébreu, c'est pareil. Chaque fois, je peux répéter deux fois. Je ne comprends rien. Et plus tu vieillis, plus tu parles doucement. C'est pas parce que tu es fatigué de la vie. C'est parce que chaque mot, il a un poids. Et chaque vide entre les mots a lui aussi un poids encore beaucoup plus fort que le mot qui vient d'être dit. Et donc, il faut respecter ces vides. Quand vous allez à un concert, avant de commencer le concert, il y a un silence total dans la salle. Au moment où le chef d'orchestre lève les mains. Tout le monde se tait. Est-ce que le concert existe déjà dans cet instant de silence? Oui. Quand les instruments vont commencer à jouer, ça va être juste un dévoilement, comme les lettres noires, qui existaient bien avant, mais que toi, tu n'étais pas capable d'entendre. Donc le silence existait avant. À la fin du concert, il y a aussi un silence. Tu rentres avec ta femme ou ton époux dans la voiture et vous rentrez à la maison et c'était tellement fort que personne ne parle. Tu n'as même pas envie d'écouter la radio pour ne pas gâcher. Comme quand tu sors d'un film qui t'a marqué. Le silence du cinéma vers la maison ou du concert vers la maison, il y a encore la suite du concert. Oui. Alors qu'il n'y a plus d'instruments. Il n'y a plus rien, c'est encore dans ta tête, c'est en train de jouer encore. Vous comprenez comment le cerveau marche? La Torah d'Israël, c'est la Torah du blanc. C'est cette Torah. la Torah du silence, entre toutes les lettres, entre tous les bruitages de ce monde, entre toutes les nations de ce monde, entre tous les niveaux de conscience de ce monde. Et celui qui apprend, qui réapprend à lire le blanc d'entre les lettres, c'est-à-dire il a un message universel, car ce blanc-là existe pour tous, c'est le même. Il existe avant la lettre, il existe après la lettre, il existe avant le texte, il existera après le texte. D'ailleurs, la quantité de blanc est beaucoup plus grande que la quantité de texte, on est d'accord. Sans compter ce qu'il y a sous les lettres. Donc, que faisons-nous en réalité quand on écrit une lettre hébraïque, ou quand on dit une parole, c'est la même chose maintenant, ou quand on entend une musique ou un son? On dessine en fait, on casse une parcelle de blanc. C'est tout.
Voilà la fin. Pour cette semaine, vous avez ce tableau qui représente la fin. On est d'accord?
Je devrais savoir tout ce qu'il y a dessus. Tous les cours qui ont été donnés et qui vont être donnés un jour sur ce tableau. Difficile, hein?
Mais c'est ça notre véritable niveau. Seulement aujourd'hui, comme tu ne sais pas lire les choses, alors je vais te dessiner un truc. Je vais tout simplement casser, habiller un vêtement avec de l'encre noire, je vais habiller une partie de l'infini. Et je vais vous donner une forme. C'est un vêtement. J'aime dessiner un vêtement. C'est tout. Tout ce que j'aime faire. Enlève-lui le vêtement, tu ne vois plus. Donc tu le déshabilles, tu n'en vois plus rien. Donc tous les vêtements de la Torah sont des vêtements noirs, obligatoires, ça doit être en couleur. Donc l'ensemble de ce que je vais te dire, ça va être en fait des vêtements et des vêtements et des vêtements et des vêtements. D'ailleurs, toute la Torah est un vêtement, puisque la racine des lettres hébraïques, c'est de trois lettres. Qu'est-ce que vient après le Aleph? Bête, en hébreu, on veut dire bête, un vêtement. Donc tout est un vêtement du Aleph. C'est ça, continue comme ça.
Je suis en train de vous raconter maintenant quelque chose de très important. Je suis en train de vous dire qu'en fait, la Torah, telle que vous la voyez dans le texte, ce n'est qu'un vêtement de tout ce que vous devriez être capable de concevoir, mais que comme vous n'arrivez pas, comme nous n'arrivons pas, alors on nous dessine, on nous habille certaines parties du blanc en forme de lettres. C'est clair ce que je suis en train de dire? Et si j'apprends la Torah des lettres, c'est bien. Mais il y a un moment où il faut savoir que notre Torah, ce que nous avons véritablement reçu au Mont Sinaï, c'est la Torah du blanc. Ok. C'est une révélation. Quand tu sors dans la rue, qu'est-ce que vous avez fait ce matin toutes? Vous vous êtes habillé. C'est bizarre, non? Vous vous êtes cassé en fait. Parce que s'habiller, c'est se casser, on est d'accord. Vous avez cassé des parties de vos corps. Pourquoi faire? Pour se révéler. Donc vous êtes en train de vivre dans un paradoxe total. Vous vous cassez pour vous révéler. On est d'accord? Normalement, quand je me casse, c'est pour ne pas qu'on me voie. Là, je me casse pour me faire voir. Bizarre. Mais c'est comme ça la vie. Ce qui n'est pas habillé n'est pas visible. Donc, ce que je ne dis pas dans ma bouche, vous ne l'entendez pas. Alors que je pense. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'entendre ma pensée? Pourquoi je suis obligé d'habiller ma pensée dans un verbe? Parce que nous sommes dans une vie qui est moins que son véritable niveau. C'est... Exactement. Aujourd'hui, c'est notre niveau. Mais alors que la Torah, c'est pour ça que quand je vous pose la question sur quelle matière elle est écrite, tout le monde pense à un texte. Alors que moi, je veux parler de la vie. Donc la Torah, c'est pas des lettres, c'est pas des mots, c'est la vie. Seulement, comme on est incapable de le voir, alors Akadosh Baruch Hu nous a donné des vêtements en forme de lettres. Donc les lettres ne sont que des vêtements. Et ça nous sert de véhicule. Des vêtements, ça sert d'auto. C'est un jeu de mots. Question jusqu'à maintenant ? C'est clair ce que je suis en train de raconter ? Je parle doucement pour que ce soit le plus clair possible. Donc nous ne sommes pas religieux. Moi, je me définis comme étant anti-religieux. Je suis un anti-religieux. Je suis un homme d'Israël qui applique la Torah et les mitzvot de la nation. C'est pas une religion. On m'a proposé de faire une émission de télévision à I24 avec un curé et un imam. Et j'ai refusé. Ouais. J'ai refusé. Alors le type s'est injuste, un ami à moi, il m'a dit mais pourquoi ? Je dis parce que tu m'as dit de faire un débat entre trois religions, moi je suis pas une religion. Eux, ce sont deux religions, moi je suis pas religion. Si tu me mets et tu me dis débat trois religions, ça veut dire que tu as rabaissé le judaïsme à une religion. C'est pas une religion, moi. Une religion, c'est une invention humaine. C'est-à-dire des structures qui ont été inventées par des hommes pour faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas ça la Torah. C'est pas les actes qui font de moi ce que je suis. C'est pas parce que je fais Shabbat que je suis juif. J'ai été créé d'abord juif avant de faire le Shabbat. C'est pas le Shabbat qui va me rendre juif. C'est pas parce que je mets le tefillin que je suis juif. Je suis d'abord juif qui met le tefillin. Ok.
Alors pourquoi
du coup dans certaines émissions il y a quand même des gens qui représentent... Il y a un problème, c'est bien un problème, ça c'est toutes les... Je sais, mais c'est tout le lien de l'exil, c'est tout le lien de 2000 ans okay, d'influence et qu'on a fait, on appelle ça le système judéo-chrétien. Et là, voilà. Alors tu te mets au niveau de religion, tu n'es pas une religion, tu es une forme de vie qui est descendue sur un peuple. Cette forme de vie est une vie qui vient de l'infini, de l'infini. Je ne sais même pas le définir, moi. Je ne peux pas définir Dieu. Je ne peux pas lui donner une image. Les religions donnent une image. Je ne peux pas dire que Dieu, il est là. Donc, je parle un langage humain, mais je ne peux pas définir Dieu. À partir du moment où tu définis Dieu, tu le rends fini. Donc, il n'est pas infini. Donc s'il est fini, pourquoi tu veux que je le serve ? Il est un petit peu plus grand que moi. Tu peux trouver plus grand que lui. On a une identité d'un peuple, d'une notion de vie que Dieu a créée. Et qui s'est révélée dans un peuple sur Terre, dans un groupe humain. Une identité divine, une entité divine, dont la fonction est de révéler l'infini dans la création. Voilà ce que nous sommes. Dans le langage d'aujourd'hui, ça s'appelle une nation. Donc, pas une religion. Parce qu'une religion n'a pas besoin de quoi ? De terre, tout simplement. Donc on peut être religieux à Paris. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah ne parle pas de religion. La Torah parle d'un peuple. Si la Torah parlait d'une religion, elle aurait dû dire à Abraham, notre père, de rester où il était. Tout simplement de faire quoi, là-bas ? De monter un centre communautaire. Hein ? Peu importe. De distribuer des denis à Hanouka, d'allumer des Hanoukiot, de mettre les tulines aux gens dans la rue, et Abraham aurait été... Je ne sais pas quoi, peu importe. Hein? Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas ça qu'on lui demande à Abraham. C'est pas moi qui ai écrit la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il demande à Abraham ? De devenir une nation sur sa terre. C'est tout ce qu'il lui demande. Il ne lui demande pas d'être un grand religieux. J'ai vu que c'était un grand religieux, reste là-bas et continue à monter des centres. Non. C'est pas demander ça. C'est pas ce que Dieu a dit à Abraham. Sinon, on se ment. C'est un mensonge. Et moi, j'ai pas envie de me mentir. Il a dit que ça. Il a dit de faire une mitzvot. Non. Non, il n'a pas dit ça. Oui. C'est marqué dans le texte de la Torah, de Bereshit. C'est autre chose. Mais c'est pas ce qu'il a dit à Abraham. Parce que pour révéler cette nation, il faut la Torah. Mais à l'endroit où il lui a dit d'aller. Le premier rendez-vous avec Abraham, est-ce qu'il lui dit de faire quelque chose au niveau de la Torah? Pas du tout. Le texte est clair. Ça c'est intuitif, ça c'est autre chose. C'est pas un ordre divin. Mais c'est pas ce qu'il y a d'autre bord qu'on lui demande. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas défendre quelque chose parce qu'on nous l'a dit. Moi, je ne sais rien de la Torah, j'essaie d'apprendre aujourd'hui, comme si j'étais premier jour. Moi aussi, on m'a raconté ça. Mais je veux chercher vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham. Ve'a'escha le goy gadol, lechlecha, me'arsecha, mimoladetecha, mibetecha. El ha'aref asher ar'eka. Je ne parle pas d'autre chose. Ve'a'escha le goy gadol, je serai de toi une grande nation. Ve'nivrechou becha kol nisfechot ha'adama, ve'zarecha. Et toutes les familles de la terre seront bénies et rattachées à toi. C'est tout. Le lendemain matin, Abraham prend ses valises et il s'en va. Après, il y a une structure. Qu'est-ce que je dois faire sur cette terre? C'est vrai. Bien sûr que je dois révéler. Mais pas en tant qu'individuel. Parce que ça, je peux le faire à New York. Ou à Amsterdam. Mais c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Bou ou Shou et Ha'aret. Venez pour conquérir cette terre, pour faire ce que je vous ai dit à travers, à partir de ce lieu géographique qui correspond à ma nature divine. Ça veut dire que même dans le monde, il y a un lieu géographique qui est ici. Encore une fois, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Dieu qui nous le dit. Il nous dit que ce lieu géographique correspond à ses valeurs divines et que c'est que d'ici qu'on peut faire le travail qu'il nous a demandé de faire. Bien sûr. C'est pour ça qu'Yitzhak n'est pas né tant qu'il n'a pas 100 ans. Parce qu'Yitzhak doit sortir d'une entité. Donc Abraham doit passer plein de travail pour faire sa brit mila, pour arriver à un certain degré, pour arriver à comprendre. Et où est-ce qu'il va naître, Yitzhak? Ici, sur la terre d'Israël. Et il n'en sortira jamais. C'est bien. On continue le texte. C'était en fait un rappel de ce que nous avons fait, mais il fallait remettre les choses bien claires dans votre tête. Donc, la notion du peuple, c'est « Ve'a'escha le goy gadol »« Je serai de toi » Qu'est-ce que c'est une grande nation? Qui montrera le grand. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire une nation qui représente le grand, celui qu'on appelle le grand. Qu'est-ce que c'est le grand? Qui est le grand? Hachem. Pourquoi on l'appelle le grand? Non. Non, parce que si je dis de l'infini qu'il est grand, je le limite. Donc qu'est-ce que c'est le grand? C'est une valeur qui est déjà au niveau du fini, de ce monde. Qu'est-ce que c'est être grand? Qu'est-ce que ça veut dire être large? Dans tous les domaines. C'est une seule chose, être grand. Il y a ce mot. Partager, donner, c'est ça être grand. La différence entre être petit et être grand, c'est la différence entre la réception, être toujours dans ce que je reçois et dans ce que je donne. Si je commence à donner, c'est que je grandis. Si je suis encore que dans la réception, c'est que je suis encore petit. Donc, le peuple d'Israël, quel est son rôle d'être donneur? Donneur de quoi? Qu'est-ce qu'on doit donner dans ce monde? Quelle valeur on doit donner au monde? Les valeurs de l'infini, d'Hachem. Où est-ce que ces valeurs apparaissent? Dans la Torah. Donc la Torah, c'est quoi en fait? c'est le message que Israël doit faire passer au monde. Donc la Torah s'adresse à qui en fait? À tous les niveaux. Est-ce que la Torah s'adresse par exemple aux cochons? Je vous pose une question. Oui, puisqu'elle nous dit de ne pas le consommer. Donc la Torah s'adresse au cochon, elle dit celui-là tu ne peux pas le consommer, c'est ça son tikkun. Est-ce que la Torah s'adresse à la gazelle? Oui, elle me dit celle-là tu peux la manger. Donc c'est son amélioration. Parce que tu vas faire un certain courban, tu vas la faire monter de niveau, peu importe. Est-ce que ce poisson, la Torah s'adresse à lui? Oui, parce qu'il a des écailles et des nageoires, je peux le manger. Et ainsi de suite. Est-ce que la Torah s'adresse à des endroits sur terre? Oui. Par exemple, elle nous dit de sortir d'Égypte. Donc, l'Égypte, dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikouté Moharan, c'est toutes les terres, sauf la terre d'Israël, ça s'appelle l'Égypte. Alors, quel est le rôle de ces terres? C'est que le juif en sorte. Comme ça dit Rabbi Nachman. Donc, quel est le rôle d'Israël, de la terre?
D'accueillir.
C'est-à-dire de faire le lien entre le peuple qui appartient et l'endroit, pour révéler cet infini. Et ainsi de suite, vous pouvez, dans tous les domaines, le temps maintenant. Est-ce que la Torah s'adresse au temps? Oui. Shabbat, les fêtes, chaque jour. Donc, il y a bien un jour dans la semaine, entre guillemets, qui est plus révélateur du divin que d'autres. Quel jour? Le Shabbat. Donc, si je veux transfigurer la terre d'Israël, tout à l'heure, j'ai dit qu'elle ressemblait à l'arche de Noé. Au niveau du temps, c'est quoi? Shabbat. Donc, la terre d'Israël égale Shabbat. Shabbat de qui? Du territoire. Comme il y a Shabbat du temps, il y a Shabbat de l'espace. Donc, quel est le Shabbat de l'espace? La terre d'Israël. Comprenez comment il faut réfléchir, comment ça marche? Et un jour on arrivera, le Yom, c'est Koulo Shabbat, comme on dit dans la Birkat Amazon. C'est-à-dire on va arriver à un temps où nous allons vivre à ce niveau-là tout le temps. Moralité, on va devoir être et au niveau identitaire à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vous ai parlé du temps, maintenant je vous ai parlé de l'espace, il nous reste un troisième élément, la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire que je dois vivre au niveau de mon Shabbat? Vivre au niveau de mon âme. Donc mon âme s'appelle aussi Shabbat. Ma Neshama, c'est un Shabbat. Donc j'ai une Neshama, la Neshama d'Israël s'appelle Shabbat. La terre d'Israël s'appelle Shabbat. Et quoi encore? Et l'être. C'est la Neshama et le temps. Le temps du... idéal, c'est un Shabbat. Quel jour la Torah a été donnée au monde? Shabbat. La Torah a été donnée Shabbat. Saviez ou pas? Gemara, traité de Shabbat, à la page 85. Donc la Torah a été donnée un Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le jour qui convient. C'est le jour qui correspond. Alors on continue. Alors on est dans Benivrechou de Kakol Mispechota Adama, ici. C'est-à-dire c'est ce qui est écrit dans Bereshit. Bereshit donc Yudbet Gimel, Klomar, c'est-à-dire c'est un goy amiyoucha d'Azé. Donc que ce goy là, rappelez-vous qu'Israël est un goy. Et non pas le goy comme vous avez l'habitude de l'entendre, mais une nation, parce que les gens pensent que goy c'est pas juif, mais goy veut dire nation, donc nous sommes une nation, nous sommes goy, goy echad ba'aretz, une nation unique sur terre. C'est Abraham omed b'yesodo, et Abraham était le fondement. C'est-à-dire que toute cette qualité d'âme que l'Éternel a pensée a été placée dans Abraham. Donc Abraham est le porteur de toute la Neshama d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Il va devoir la dévoiler, cette Neshama. C'est difficile de la dévoiler. Parce que Abraham n'est pas quelqu'un de parfait au départ. Donc qu'est-ce qui va sortir de lui? aussi des éléments qui ne sont pas Israël. Donc il va devoir sortir de lui Ismaël, par exemple. Donc l'écarter du programme. C'est pas évident. Au départ, c'est pas évident. C'est Sarah qui comprend ça. Lui ne comprend pas ça. Et Dieu dit à Abraham, c'est ce qu'elle te dit, elle a compris. Houze, donc c'est lui, c'est Beyom il Hayamim qui, un des jours de sa vie, qui Yemesugal sera arrivé à une capacité, à être capable et à suivre la Olam et Matsavo à Bari, de ramener au monde son état sain, Bari, quelle bonne santé. Que si c'est Aya Bezman Chalukat Aenoshut et Mispachot, comme c'était au départ, quand, avant que le monde ne soit éparpillé. Tout ça, c'est tout ce que je viens de vous dire, maintenant c'est avec des mots, parce que la capacité, et c'est pour ça que c'est le titre de notre cours, Segula veut dire capacité, la capacité de notre peuple, de cette création qu'Akadosh Baruch Hu a créée, c'est de faire quoi ? D'unifier, donc de trouver le point commun entre toutes les nations de ce monde. C'est nous qui devons faire le lien entre toutes les nations. Les nations du monde seront unies à cause de nous ou grâce à nous. Aujourd'hui, elles sont unies à cause de nous. Mais pas unies. Bientôt, elles vont être unies grâce à nous. Parce que aujourd'hui, les consciences sont en train de se réveiller. Bien qu'on entende encore certains imbéciles, comme la Suède, et comme les pays, qui sont en train de dire que le terrorisme en Israël, ce n'est pas les mêmes terroristes. Ici, c'est des méchants, et des gentils, pardon. Les terroristes d'ici sont gentils, mais les terroristes de France, là, ils sont méchants. Donc, ce qui est valable pour les Français n'est pas valable pour ici. Juste pour vous rappeler que quand Israël a décidé, par exemple, de sortir, d'enlever l'identité, la carte d'identité de certains terroristes ici, toute l'Europe s'est réveillée en disant « vous êtes un pays d'apartheid ». Maintenant, c'est une décision qui est en France, depuis hier et avant-hier, d'enlever la carte d'identité française. Là-bas, ce n'est pas de l'apartheid. C'est extraordinaire ce mensonge. C'est magnifique, on marche sur la tête, quoi. C'est magnifique. C'est-à-dire les terroristes de là-bas, c'est des méchants, et les terroristes d'ici, c'est des gentils. Eux, ici, c'est normal, ils se battent pour quelque chose de vrai, là-bas, non. Voilà. Ici, c'est toujours... Et nous, on joue le jeu, même les juifs. C'est-à-dire quand il y a des attentats en France, tout le monde se peint sur Facebook bleu, blanc, rouge. Mais je n'ai jamais vu les mêmes juifs se peindre avec un Magen David quand il y a des attentats en Israël. Bizarre, non? Pourquoi ça? Vous n'êtes pas amoureux de votre identité? Je ne comprends pas, ça c'est une maladie de ne pas être amoureux de son identité. Mais pourquoi ça? Vous ne comprenez pas que c'est la même gangrène qui veut islamiser le monde? Les gens ne comprennent pas ça. Pourquoi moi je comprends des choses que les choses ne comprennent pas, les gens? Moi je suis plus intelligent que les autres, non? C'est tellement clair. Alors eux, ils ont le droit d'attaquer par l'aviation, de jeter des bombes, comme ils ont fait hier. Personne ne leur dit rien. Pourquoi vous jetez aveuglément des bombes? Vous savez sur qui ça tombe là-bas? Il y a une femme, des bébés, des gens qui sont morts, on ne sait pas, on s'en fiche. C'est légitime. Légitime défense. À combien de kilomètres? Légitime défense. Hein. C'est-à-dire, l'avion, il doit voler pendant une nuit entière pour arriver là-bas et jeter des bombes. Et ils appellent ça une légitime défense. Légitime défense, c'est quand tu es menacé tout de suite et que tu réappliques. Il n'y a aucune légitime défense. Mais moi, ici, quand le terroriste, il est avec un couteau, on me dit non, c'est un stylo bis. Je n'ai pas le droit de tirer dessus. Alors il faut qu'on invente des caméras, merci les Japonais. Heureusement qu'ils nous ont inventé des caméras pour voir que c'est des couteaux. Mais oui. Ça veut dire que le Japon, il fait son rôle. On a dit chacun a eu une structure. Eux, ils doivent nous inventer des appareils. des Chinois et des Japonais, des Samsung et des Macs et des trucs, comme vous voulez. Baruch HaShem. Vous voyez comment chacun joue son rôle? Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce mensonge? Eh bien aujourd'hui, en espérant que les nations du monde vont comprendre qu'en réalité la guerre que nous menons depuis des années, des milliers d'années, peut-être vont s'éveiller. C'est pas sûr, hein? La vérité, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est une haine ancrée, exactement. C'est ce que dit la Gemara. Et savent sonner les Yaakov. L'Occident a une haine pour Yaakov. Ils ne peuvent pas nous voir. Et quoi qu'il se passe, ils vont trouver que c'est nous, ce n'est pas légitime. Là-bas, oui. Alors, on doit faire avec ça. Que nous sommes... Tous ici, oui. Ah, là-bas, oui. Ah, là-bas, ils ont le droit de tout faire, c'est normal. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est révoltant, c'est... Moi, j'en pleure. Quelqu'un de très sensible, à l'intérieur de moi, j'ai une souffrance d'une seule chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne se révèle pas encore plus clairement sur terre. C'est ça ma souffrance, en fait. C'est pour ça que je suis là pour donner des cours. J'ai autre chose à faire. J'ai plein de trucs à faire. Je viens pour vous voir, ça me fait plaisir de vous voir, je suis pas payé. Et je viens gratuitement, c'est moi qui l'ai choisi. Je ne veux pas être payé. Je viens parce que je vous aime, parce que vous représentez pour moi l'avenir du peuple d'Israël de demain. Et donc je vous dis ce que je sais. J'essaie de vous faire partager mon savoir. Mais c'est très important. Il faut savoir qu'il y a une souffrance dedans. De ce mensonge, et je le dis pas seulement aux juifs, je le dis aux nations du monde, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Skype. J'ai des cours toute la semaine où je donne ce genre de mission. Alors certains de ces nations sont sensibles à ça. Aujourd'hui de plus en plus. Mais, pas évident. On ne perd pas l'espoir parce que Israël, c'est le divin sur terre. On représente le divin sur terre. Donc avant c'était de l'antisémitisme, maintenant ça devient de l'antisionisme, c'est la même chose. C'est ça qu'il change de truc, c'est simplement. C'est la même chose, ne vous trompez pas. Et on nous boycotte. Le même jour où on nous a boycotté, il aura réussi. Personne ne fait le lien. Hein. Ah, c'est comme d'habitude. Maintenant, c'est presque à cause de nous. Ah, voilà, ça c'est. Voilà, le racisme. Magnifique. Mieux que ça, j'ai vu une journaliste qui a dit. Magnifique. Donc ils savaient, ils ont préparé le cours. Voilà. Magnifique. Voilà. Exactement ça. D'ailleurs, j'ai vu une journaliste qui a dit extraordinaire. Les soldats d'Israël sont les plus racistes du monde. Vous savez pourquoi? Parce que jamais on a vu qu'un soldat israélien a violé une fille palestinienne. Donc c'est des racistes qui ne les aiment pas. Regardez jusqu'où ça va. C'est-à-dire, normalement, un soldat, par nature, qu'est-ce que c'est? Un violeur. Regardez la mentalité du monde. Comment on peut être tranquille? Moi, des fois, je pousse des cris, seul, dans la voiture. Un cadeau de Bancou, dévoile-toi! C'est un scandale, c'est pas possible, quoi, c'est trop. Vous rendez compte jusqu'où on va? C'est-à-dire, à la limite, s'il avait violé la femme, c'est pas grave, ça prouve qu'on les aime. Immonde, j'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez jusqu'où ça va. Et ça, il faut bien, bien comprendre que ça a une racine. C'est ce que, entre nous, on essaye de développer cette année. Alors, on va continuer. Quelle? Voilà, je viens de te dire. Je donnais un exemple tout à l'heure. Les Chinois font des Samsung, c'est sa Torah. C'est-à-dire les gens, chaque nation a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la France dans le monde? Qu'est-ce qu'elle doit donner au monde, la France? Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes? Vous avez fait votre alia? Ok. Peu importe, même si vous êtes venu pour l'instant, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez apporté avec vous? Quoi? Quelles sont les données que vous avez prises de la France? politesse, éducation, esthétique, philosophie. Beaucoup de philosophes sont sortis de France. Donc on apporte quelque chose est apporté. Qu'est-ce que, c'est pas moi, les Allemands qui font leur alia, il y en a, apportent. Qu'est-ce qu'ils apportent avec eux? Leur structure, avec ces deux machines. Ça peut être des machines de guerre, hein, des machines pour tuer, mais c'est des machines, sont structurées. Donc c'est très important pour moi. Le master chef d'Israël, le dernier, c'est un Allemand. C'est un ordinateur, le mec. Ils savent exactement à la mesure près quoi mettre, machin, du paprika, du machin, du tout, ça lui sort une merveille. Une structure. Ok ? Donc chacun va apporter ce qu'il est. Et donc chaque nation, elle a une spécificité en elle. Et nous, on doit dévoiler en fait à chaque nation, on doit faire révéler ce qu'il est. C'est pour ça que le juif, on ne va pas convertir quelqu'un. Moi, je n'ai jamais demandé à Mohammed de devenir Abraham. Alors que l'islam et la chrétienté, qu'est-ce qu'ils font à longueur de temps? Ils convertissent le monde. Ils sont des convertisseurs du monde. Et si tu ne veux pas te convertir, jusqu'à quelques générations, qu'est-ce qu'on faisait? On se massacre. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec l'islam. Ou tu convertis, il arrive dans une ville, ou tout le monde se convertit à l'islam, ou bien on coupe la tête. C'est simple, c'est clair. La semaine dernière, on a tué 200 enfants, on les a poussés sur le ventre, on leur a tué dessus. Imaginez-vous, juste Israël, même pas ça, juste qu'elle les couche par terre, sans leur rien faire, même qu'elle les caresse. Comment ça aurait été? C'est pas la troisième guerre du monde? Alors, regardez ce mensonge, regardez cette haine. Ah, vous vous taisez? Alors je vais vous envoyer des épreuves. C'est ça votre honnêteté? Ils ne sont pas honnêtes. Tout est un mensonger. C'est insupportable. C'est fini, quoi. C'est dans les trous. Et donc aujourd'hui, on arrive au bout. Donc tout va se révéler maintenant. Chacun va prendre sa couleur. On va voir les menteurs et on va voir les vrais. C'est tout. Et c'est pour ça que nous sommes là, dans cette scène. Que nous sommes là. Exactement. Donc vous comprenez. J'ai répondu à ta question. Donc chacun en fait va donner sa structure. Et je le respecte pour ça. C'est très important qu'il reste le meilleur japonais. Je vais lui dire, reste japonais. Sois le top niveau des japonais. Et soit le top niveau des français, soit le top niveau. Moi je suis pour que le français reste français. Mais le français, il est en train de se perdre. Il a perdu son identité. Il est en train de se perdre pour une autre nation qui est en train de l'avaler. Vous comprenez ce qui se passe? Moi, je veux que l'italien reste italien. Parce qu'il est classe, parce qu'il est un italien. Il sait, il a le sens de l'esthétique, il a le sens, je veux qu'il reste italien. J'ai besoin de son apport dans mon monde. Je ne vais pas convertir un italien et le rendre autre chose que lui-même. Et nous aussi, on doit rester ce que nous sommes. Et révéler ce que nous sommes. Et aimer ce que nous sommes. Et ne pas s'auto-détruire et trahir soi-même. Et pour ça, il faut étudier la Torah, mais honnêtement. Honnêtement. Quand je dis honnêtement, ça veut dire sans préjugés, sans a priori. Et étudie ce qu'Akadosh Baruch Hu dit vraiment. Sois honnête avec toi-même. Il y a un livre qui s'appelle En Habanim Smecha, vous l'avez étudié? Ça fait peur. C'est un juif, un chassid, qui a vécu pendant la Shoah, et qui a vu toute sa yeshiva et tous ses élèves partir dans les fours crématoires. Il a écrit un livre, dans les camps, qui s'appelle Em Habanim Smecha, La maman des enfants est heureuse. C'est un livre comme ça, où il parle de toutes les fautes que lui, le Rav, a fait, en ne voulant pas comprendre la Torah honnêtement. Parce qu'on lui a dit, non, ne t'occupe pas de ça, ne t'occupe pas de ça, ne t'occupe pas de ça. Donc il dit, à cause de moi, tous les élèves sont rentrés dans les fours crématoires. Je ne sais même pas si un jour on me pardonnera. Et il écrit ce livre pour faire tchouva. Il dit, je n'ai pas compris la Torah comme il fallait la comprendre. Je ne l'ai pas lu, parce que j'étais enfermé dans un système. Je n'ai pas compris qu'il fallait monter en Israël en tant que peuple. Je n'ai pas compris ça. Et il fait tout bas sur ça, il faut l'étudier ce livre, c'est extraordinaire. Il est en hébreu, je pense qu'il est en français aussi, traduit déjà. M. Abanim Semecha. La maman des enfants est heureuse, je ne sais pas. C'est le Rav Taichtel. Rav Israël Taichtel. Taichtel. Mais une révolution, ce livre. Rav Israël Taichtel. D'ailleurs, son fils, qui est vivant encore, est venu donner un cours au Machon Meir il y a un an. Vous l'avez trouvé ? Le Rav Taichtel. Ok, jusque-là pour aujourd'hui. Merci beaucoup.